Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Les valeurs issues de la Révolution neuchâteloise de 1848 sont un héritage et doivent être valorisées. C'est le message du Conseil d'État alors que le canton s'apprête à célébrer son 175e anniversaire. Le programme des festivités a été dévoilé ce matin. Le gouvernement neuchâtelois qui dit prendre très au sérieux les préoccupations des Boudrisans face au centre fédéral de Perreux. Pour la conseillère d'État Florence Natter, l'accueil dans le canton doit se faire le mieux possible, tant pour les personnes qui cherchent protection que pour la population locale. Les feux de signalisation devraient disparaître sur l'avenue Léopold-Robert d'ici 2025. C'est ce que prévoit le projet de réaménagement de l'emblématique artère de la Chaux-de-Fonds, un projet soumis à l'enquête publique depuis ce matin. Et le ciel s'annonce chargé de nuages demain matin. Les éclaircies pourraient faire leur retour l'après-midi. Le canton de Neuchâtel fête cette année le 175e anniversaire de la création de la République. La marche du 1er mars sera un des points forts des festivités. Le gouvernement neuchâtelois a dévoilé le programme ce matin au Locle. Adrien Juvet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez sur place ce matin.
Oui, Sonia, et c'est promis, cette fois on ne chassera pas les Prussiens ou les étrangers. Au contraire, à l'occasion de cet anniversaire, on souhaite recevoir l'hôte de passage les bras ouverts dans une convivialité toute neuchâteloise, car pour le gouvernement, cet anniversaire, eh bien, c'est l'occasion de rappeler les valeurs de liberté, d'égalité, de paix qui constituent la République. Selon le président du Conseil d'État, il faut faire vivre cet héritage, Laurent Courte.
Ce sera l'occasion d'aborder des thématiques qui sont celles des valeurs républicaines, de la chance qu'on a, des institutions qui protègent les plus faibles, nos droits, nos libertés. Et puis en même temps de le faire dans un climat de fête, d'abord parce qu'après 3 ans de crise, je crois que les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ont envie de se rassembler et de faire la fête. Et puis parce que ces valeurs qu'on va célébrer le valent bien.
C'est aussi peut-être l'occasion de se projeter dans l'avenir, de se questionner sur notre société actuelle.
Oui, et peut-être d'affirmer la chance qu'on a de vivre dans un monde en paix, s'agissant de la Suisse et du canton de Neuchâtel en tout cas, dans un monde qui protège ses minorités, qui respecte les droits et les libertés de chacune et de chacun. Et je pense qu'au moment où on a le sentiment peut-être que face aux défis du monde contemporain, tout cela a peut-être moins de valeur que par le passé, c'est une bonne occasion de rappeler cette chance qu'on a et peut-être de faire vivre ces valeurs dans le monde contemporain avec les défis qu'on a à relever et pas en opposition aux défis qu'on a à relever. C'est en tout cas l'ambition du Conseil d'État au moment d'organiser ces festivités.
Et pour revenir sur les événements historiques de l'indépendance, le mensuel roman Passé Simple a analysé les faits qui ont conduit à la Révolution, l'occasion de décortiquer les schémas parfois simplificateurs qui résistent dans l'imaginaire collectif. Exemple, l'affaire de Neuchâtel, 1856. On découvre qu'à l'époque, beaucoup de monarchistes subsistaient, et notamment dans les montagnes. Justin Favreau, coéditeur de Passé Simple.
En 1956, il y a donc une contre-révolution. Donc la Suisse s'apprête à faire la guerre au roi de Prusse. Et donc elle mobilise. Et effectivement, il y a presque 600 déserteurs neuchâtelois. Et pratiquement tous sont des montagnes neuchâteloises. Donc c'est des gens qui refusent l'idée de se battre contre leur roi, alors que ce n'est plus leur roi. Bon, on sait que la Sagne, par exemple, on dit que c'est un nid de royalistes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a un schéma. Comme dans tous les cantons, hein, on a un schéma identitaire. On imagine que ceux du haut sont des ouvriers, des horlogers progressistes. Et puis en bas, on a des aristocrates qui sont fanatiques et accrochés au passé. Puis on voit dans les fêtes, dans les chiffres, quand on lit le numéro de Passé Simple, on voit que c'est pas du tout aussi simple que ça. Et c'est souvent comme ça, le discours identitaire est toujours simplificateur. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué.
Reste que l'abandon de la monarchie au profit du système républicain a permis à Neuchâtel d'être avant-gardiste dans plusieurs domaines légaux et sociétaux, en rendant par exemple l'instruction publique obligatoire ou en accordant le droit de vote communal aux étrangers. Justin Favreau.
Il faut imaginer un canton qui était plutôt en retard par rapport à d'autres. On voit bien, ils abolissent la torture vraiment tard, le droit reste extrêmement primitif. Et du jour au lendemain, il y a une sorte de rattrapage monstrueux. On sent qu'il y a une volonté de changement et des gens qui ont réussi à incarner ça, qui ont réussi à le faire. Et on sent que c'est devenu un canton, et ça reste un canton qui est plutôt plus progressiste que la moyenne.
Et puis parmi l'ensemble des festivités qui figurent au programme, programme à retrouver sur rtn.ch, notons enfin qu'une torée cantonale clôturera les festivités en octobre à La Sagne.
Merci Adrien. Puis le budget se monte à 180 000 francs pour ces festivités. C'est nettement moins que le budget du 150e qui avait coûté plus de 3,6 millions de francs. Les feux de signalisation pourraient disparaître du POD d'ici 2025. Le projet de réaménagement de l'emblématique avenue de la Chaux-de-Fonds est soumis à l'enquête publique depuis ce matin. La première étape des travaux prévus entre cette année et 2025 consiste à fluidifier le trafic entre la Poste et le Grand Pont. Outre la suppression des feux, la zone comprise entre le carrefour de la rue de Pouyrel et l'office postal sera réduite à une vitesse à une voie de circulation et avec une limite à 30 km/h. Le réaménagement devrait commencer cette année, mais seulement si les travaux prévus sur le Grand Pont le permettent. Le conseiller communal en charge de l'urbanisme, Théo Hugnaeli.
On a lancé une étude de trafic auprès de bureaux spécialistes afin de déterminer si la fermeture du Grand Pont sur 2 ans est une opportunité pour faire des travaux sur l'avenue Léopold-Robert, parce que fatalement, la circulation sur l'avenue Léopold-Robert va drastiquement baisser durant les travaux du Grand Pont, ou au contraire, si la fermeture du Grand Pont rend impossible jusqu'à sa réouverture fin de l'année 2024, des travaux de très grande ampleur sur l'avenue Léopold-Robert. Donc il y a encore ici une incertitude, est-ce que ces travaux pourront être lancés, menés, en 2023, 2024 et 2025, ou est-ce qu'il faudra attendre 2025 pour lancer ces travaux ?
Des propos recueillis par Yann Esler, l'enquête publique court jusqu'au 6 mars. Incivilité, tensions et problèmes, le canton de Neuchâtel reconnaît et dit prendre très au sérieux la situation vécue par certains habitants de Boudry en lien avec le centre fédéral pour requérants d'asile de Perreux. La commune de Boudry avait fait état d'incivilité en hausse depuis 2017 dans un rapport paru en fin de semaine dernière. La conseillère d'État Florence Natter se veut rassurante avec les citoyens boudrisans.
La situation est prise très au sérieux par leurs autorités communales, mais aussi par le canton. Je crois que ça, c'est vraiment important de le redire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est adressé aussi au-delà des contacts réguliers qu'on a avec le secrétariat d'État aux migrations, la direction même du centre, de pouvoir poser ces éléments aussi par écrit. Ça fait partie de ces préoccupations que le Conseil d'État veut vraiment porter et dire que pour le Conseil d'État, c'est important que cet accueil dans le canton de Neuchâtel puisse se faire le mieux possible, évidemment pour les personnes qui cherchent protection sur notre territoire, mais aussi, bien sûr, pour la population locale, c'est vraiment très important. Et cette préoccupation est clairement à l'esprit et dans les actions du Conseil d'État.
Et selon Florence Natter, la Confédération est en processus d'amélioration constant pour trouver les meilleures solutions en termes de sécurité et d'accompagnement social des personnes, en fonction toutefois des moyens à disposition. Les habitants de Boudry, de Cortaillou et de Millevignes sont mis à contribution. Le comité de pilotage de la fusion invite les citoyens à faire des propositions de noms pour la future commune, si l'alliance est acceptée. Les écoles sont tout particulièrement appelées à participer. Le délai pour soumettre ces idées est fixé au 10 mars. Le nom choisi sera dévoilé au mois d'avril. Le peuple suisse pourra s'exprimer sur le contre-projet du Parlement à l'initiative sur les glaciers. Le référendum lancé par l'UDC contre le texte a abouti. Plus de 103 000 signatures ont été validées par la chancellerie fédérale alors qu'il en fallait 50 000. Le contre-projet prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en s'appuyant notamment sur des programmes d'encouragement pour le remplacement des chauffages polluants et pour l'assainissement des bâtiments. L'UDC qualifie ce texte de poison pour l'économie et les habitants. Les soins contre le cancer produisent de bons effets en Suisse en comparaison internationale, mais les Helvètes ne sont pas égaux face à cette maladie. Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique montrent qu'en Suisse latine, 26% des hommes risquent d'avoir un cancer avant 70 ans, contre 24% en Suisse alémanique, parce que les Romands fumeraient et boiraient davantage. Un constat dressé à la veille de la Journée mondiale contre le cancer qui se tient demain. La Ligue suisse contre le cancer réclame un plan national de lutte contre la maladie, son président Gilbert Zulian.
Sans un plan cancer qui comprend tous les volets de l'histoire de la maladie, ça veut dire la prévention, ça veut dire la détection précoce. Et en détection précoce, aujourd'hui, il y a des cantons qui ne font pas de campagne de détection précoce contre le cancer du sein Au niveau des thérapeutiques, vous avez mis l'accent sur les injustices qu'on peut observer. Ensuite, vous avez toute la suite qui devient pratiquement sociale. Lorsqu'une personne a subi, a reçu, a bénéficié d'un traitement anticancéreux, qu'il peut soit vivre avec sa maladie, soit en être complètement débarrassé, eh bien, il y a des mesures sociales. Ça fait beaucoup de choses qui sont concernées par un plan national. Et tant que nous n'en aurons pas, notre politique de santé publique face au cancer ne sera pas tout à fait sérieuse.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Le futur de l'Ukraine est avec l'Union européenne, un point de vue martelé par le président du Conseil européen Charles Michel à l'issue d'un sommet consacré aujourd'hui au processus d'adhésion de Kiev à l'UE. L'Union européenne souhaite par ailleurs trouver un moyen d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Un bureau d'enquête sera par ailleurs mis sur pied pour coordonner le recueil de preuves du crime d'agression de la Russie. Le monde de la mode perd l'une de ses figures. Paco Rabanne est décédé à l'âge de 88 ans en Bretagne. Le couturier espagnol s'est notamment illustré par ses tenues en métal. Il avait trouvé refuge en France avec sa famille en raison de la guerre civile espagnole. Il avait commencé sa carrière en créant des accessoires de mode, bijoux, cravates et boutons qu'il proposait à de grandes marques telles que Dior ou Saint Laurent.
RTL, il est 18h11.
Sport. La tuile pour Neuchâtel Xamax. Marvin Spielmann, qui vient d'arriver à la Maladière, est incertain pour la rencontre de Challenge League à Thun de ce dimanche. L'information nous a été confirmée par le coach Jeff Saibenet cet après-midi. La nouvelle recrue des Rouges et Noirs s'est fait une entorse hier à l'entraînement et n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui et doit passer des examens. Côté bonne nouvelle, les trois nouveaux joueurs, Marvin Spielmann, Amadou Ndiaye et Tizian Tucci, ont reçu leur qualification. Le HC La Chaux-de-Fonds part en quête d'une 14e victoire consécutive pour conserver sa première place au classement. Le HCC s'en va défier Langenthal ce soir dès 20h à l'occasion de l'avant-dernière journée de Swiss League de hockey sur glace. Un match à vivre en direct sur RTN à partir de 19h45. Et puis en tennis, c'est l'Allemagne qui mène le bal face à la Suisse en qualification de la Coupe Davis. Oscar Otte a remporté le premier set face au Zurichois Marc-Andrea Hüsler sur le score de 6-2. Et puis le premier simple a commencé donc à 17h à Trèves. Dans la deuxième manche, la Suisse reprend un petit peu des couleurs, c'est 2-1. À l'aube des mondiaux de ski alpin à Courchevel et Méribel, qui seront officiellement lancés ce dimanche, la Coupe du Monde fait une dernière halte à Chamonix demain à l'occasion d'un slalom masculin. Un rendez-vous important pour les skieurs suisses en lice. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Christophe Morellon.
Cette épreuve au pied du Mont Blanc doit servir de dernier galop d'essai, de répétition générale pour les quatre athlètes qui représenteront la Suisse lors du slalom du 19 février prochain. Ce sera l'occasion de la dernière course de ces championnats du monde. Les trois premiers sont connus, il s'agit des trois locomotives de l'équipe, Daniel Juhl, Loïc Meyer et Ramon Zenhuizen, tous trois montés sur un podium cet hiver. Le quatrième devait être le vaudois Marc Rocha qui s'est hissé deux fois dans le top 10 à Garmisch puis à Adelboden, à moins que le genevois Tanguy Neff ou le skieur de Crans-Montana Luca Erni, tous deux en difficulté cette saison, ne réalise un exploit ici à Chamonix. Et puis demain, il y a un vrai coup à jouer pour Daniel Juhl et Loïc Meyer, respectivement 3e et 4e du général du slalom. En l'absence du leader, le Norvégien Lucas Broughton, opéré de l'appendicite cette semaine, il pourrait se replacer dans la course au petit globe de la spécialité. Ramon Zenhuizen tentera lui de confirmer sa 2e place acquise il y a 10 jours à Schladming sur une piste qui lui avait réussi il y a 2 ans. Le Valaisan y avait terminé 2 fois 2e. Lutte pour le dernier ticket des mondiaux, course au globe ou confirmation, vous l'aurez compris, les enjeux lors de ce slalom de Chamonix seront nombreux dans le camp helvétique.
Et le début de la première manche est prévu à 9h30 demain sur la verte des Ouches, la piste de ce slalom de Chamonix. Très belle soirée.